Bonjour à tous, on se retrouve tous ensemble pour parler du film qu'on a regardé ce matin, Ondine, de Christian Petzold. Ondine est résumée par le festival Premier Plan comme ceci. Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Le jour même de sa rupture avec Johan, elle rencontre un nouvel amour, Christophe, qui semble inconditionnel. Le mythe ancien la rattrape pourtant. Ondine doit tuer celui qui l'a trahi et retourner sous les eaux. Avec ce résumé, on voit que ça annonce un film fort, avec des émotions. On peut revenir premièrement sur ce mythe d'abord, d'Ondine. Les Ondins, donc, étaient des créatures des marais, différentes des sirènes qui, elles, veulent la mort des personnes. Les Ondins sont bien plus bienveillants. Cependant, lorsqu'ils tombent amoureux, ils peuvent avoir le besoin de tuer la personne qu'ils ont aimée. Tuer est alors un moyen de réintégrer le royaume de la mer, de l'eau et de l'océan. Le personnage d'Ondine dans le film de Christian Petzold est un personnage mystérieux qui brouille les limites entre réalité et fiction. Pouvez-vous en parler?
Bah, c'est vrai que déjà, juste par son prénom, on comprend très vite que bah, déjà justement elle est inspirée en fait du mythe. Et c'est vrai que même dans son comportement, des fois, il y a un truc très onirique, et je trouve même que en même temps des fois elle est très humaine parce que vous parliez des qu'elle est à la fois dans le mythe et dans la réalité en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a deux mondes, il y a celui de l'eau qui est du coup lié à son mythe, et il y a celui en fait du musée où elle travaille. Et dans ce cas-là, elle s'intègre parfaitement à son environnement, elle est normale. Mais c'est vrai que par exemple quand elle interagit avec d'autres personnes, sa première rencontre avec Christophe par exemple, elle a des réactions qui semblent bizarres quand même. Et même bon, tout ce qui se passe dans l'eau, on comprend que c'est quand même pas quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire finalement.
Mais en même temps, le fait qu'elle soit freelance montre que même dans le musée et dans le côté de Berlin, elle n'a pas vraiment ça, elle n'a pas vraiment l'air réel car personne ne la connaît. Elle semble presque fantomatique par rapport à plusieurs personnes.
Pour moi, oui, le personnage est très différent. Du coup, comme tu l'as dit, est beaucoup plus s'intégrerait beaucoup plus dans un monde onirique, mais je sais pas si c'est moi qui interprète des choses qui n'ont pas lieu d'être ou peu importe, mais j'ai l'impression que le personnage s'efforce de vraiment rentrer dans le moule d'un monde réaliste et que vraiment il y a
Pourquoi tu à
bah
quel moment t'as cette impression de
bah comment dire dans le sens enfin dans les moments où elle dans les moments où bah, au musée, par exemple, quand elle pense à plein de trucs, parce que bah, on voit sa tête être pensive, et qu'elle vraiment qu'elle bah, après c'est son métier, tu vois, mais enfin je l'ai plus perçue comme elle essaye de s'intégrer, ou alors
mais elle essaye de s'intégrer, elle est intégrée. Elle a un métier et elle fait sa
oui,
conférence.
non, mais
Et c'est
ouais.
vrai qu'elle pense à d'autres choses. Enfin, parce que là, au musée, c'est la scène où elle demande où on est. Et quand on lui montre
Bah, un peu
le
avant aussi, ouais.
bâtiment, elle repense à Jonah Johan, qui attend au café. Mais je pense que c'est pas une question d'intégration. Parce qu'elle s'intègre pas dans la vie. Enfin, là, elle. Les deux seules personnes qui la connaissent, enfin, qui la connaissent parce qu'on ne peut pas vraiment dire que Joanne la connaît,
Ah non, mais oui.
mais elle ne s'intègre pas et c'est pour ça qu'on voit qu'on ne la connaît pas. Elle n'a pas d'amis, même son appartement à la fin, on se rend compte que vraiment personne ne la connaît.
Enfin bref, mais je sens que, enfin, je sais pas, enfin, tu vois, je l'ai dit, peut-être j'interprète des trucs qui n'ont pas lieu d'être, mais j'ai, parce que, bah, comme, enfin, Marion a dit que, bah, en fait, le personnage, certes, elle s'intègre dans le sens où elle a un travail, ce genre de choses, mais pour moi, être intégrée, c'est plus le fait de faire partie vraiment.
Oui, non, mais pour moi, elle n'est pas intégrée.
Je... Ouais, voilà. Et moi, j'ai dit qu'elle l'est.
Elle ne fait pas tant partie de la réalité.
Oui, mais justement, j'essaye de dire. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que je sens une volonté de s'intégrer, même si elle n'arrive pas.
Ah, moi, je pense qu'elle n'essaie pas. La preuve, on la voit pas forcément enthousiasmée par son travail. Quand elle doit reprendre quelque chose, elle est toujours très fatiguée. On ne voit pas qu'elle porte un grand intérêt à son travail, même si l'histoire de Berlin a une grande importance dans le film. Je la vois vraiment à côté. Et oui, c'est comme le mythe. Elle cherche l'amour et elle a été, pas repoussée, mais utilisée, si on peut dire, par Johan. Et c'est pour ça qu'elle le tue, à vrai dire. Il faut le dire. Et quand Christophe meurt, elle n'a plus qu'une seule solution, c'est retourner dans son royaume, si on peut dire, là d'où elle vient, la mère. Et on remarque qu'à part Christophe, elle ne manque à personne, si on peut dire. Et à la fin, il a reconstruit sa vie. Et on voit à la dernière scène qu'elle est repartie d'où elle venait et qu'elle ne manquera plus jamais.
Elle, en effet, à la fin, elle retourne dans son royaume. Cette scène, comme le personnage, est énigmatique puisqu'elle laisse un mystère et une question en plan. Est-ce que pour vous, Ondine est morte ?
Personnellement, quand j'ai vu la scène, je n'ai pas imaginé du tout sa mort. Déjà parce que cette personne sort tellement de l'ordinaire que... son lot, c'est vraiment son royaume. Donc, entrer dedans, mourir dedans, mourir parce qu'elle va dedans, n'aurait pas vraiment de sens. Et justement, je pense qu'elle correspond au mythe et que c'est vraiment quelqu'un qui... alors, pas forcément des pouvoirs, hein, mais... on ne sait pas où elle est, mais elle a quelque chose de surnaturel, forcément.
Je pense qu'il y a vraiment deux points de vue, et c'est comme le point de vue de voir si elle est réelle ou pas, et que, enfin, si elle ne fait partie que du mythe, ou si elle fait partie de la société, plutôt que réelle ou pas. Et je pense que pour des personnes qui ont plus perçu ça comme un mythe, comme Marion, ils vont... plus penser qu'elle va dans l'océan et qu'elle retrouve son royaume, enfin dans le lac en vrai, mais dans le mythe de l'océan.
Et elle est morte.
Mais j'ai quand même, je suis pas tranchée sur cet avis, parce que j'ai pas encore, peut-être que après l'interview qu'il va nous donner tout à l'heure, j'aurai peut-être plus d'informations ou d'idées, mais j'arrive pas à bien cerner si elle est morte ou pas, si elle appartient, enfin la vraie question est toujours si elle appartient ou pas à la société, ou si elle représente un fantôme, on ne sait pas vraiment.
Et surtout que du coup, un argument pour sa mort, ce serait que, par exemple, la scène où on voit du coup Christophe plonger, semblait la voir, la toucher même, et ensuite remonter, et lorsqu'il voit les caméras de surveillance, pas les caméras de surveillance, les caméras qui sont accrochées à lui, du coup, pendant ce temps-là, et en fait, on voit qu'il n'y a rien, et du coup, on pourrait penser que c'est une sorte d'hallucination, en fait, qu'il a. Or, moi, encore une fois, je pense que c'est rattaché au mythe, et le fait que... les ondas en fait n'ont pas d'âme en fait, en quelque sorte, et du coup leur existence est vraiment, comment dire, est vraiment faite grâce aux humains, et du coup peut-être que l'existence de Ondine n'est faite que par un être qui est aimé, et du coup lorsqu'il refait sa vie, je pense que quand elle va dans le lac, peut-être qu'elle disparaît en quelque sorte, et que c'est que lorsqu'elle a un contact avec un être qui l'aime que en fait elle réapparaît et qu'elle réexiste.
Et du coup, que la scène de fin où il reva vers sa nouvelle compagne montre vraiment la fin d'Ondine et sa mort, que ce soit dans le plan mythologique ou...
Ondine, donc personnage féminin très fort, est aimée par deux hommes dans sa vie, en tout cas deux hommes qui nous sont montrés à l'écran. Ces deux hommes l'aiment de façon totalement différente et nous montrent peut-être deux types d'hommes, deux types d'amour. Est-ce que vous pourriez en parler?
Je pense que Christian Pelzolt, à travers ces deux amours, dénonce plusieurs choses du monde et de la société dans laquelle on vit actuellement. À travers Joanne, il montre ce désir qu'on... Enfin, le fait, plutôt, qu'on a à... comme il disait, avec les applications de rencontres, à rencontrer des gens, pas à la chaîne, mais de façon extrême, compulsive et massive. On peut très facilement rencontrer des gens. Et donc, quand on aime une personne, quand on lui dit « je t'aime », on n'a pas forcément cette idée de « je passerai toute ma vie avec cette personne et c'est la bonne ». Et je pense que c'est assez dénoncé dans le film que Joanne lui dit « je t'aime », alors que il est prêt à changer, et c'est ce qu'elle lui dit à « si tu me quittes, je te tue », parce que pour elle, c'est... quand on dit je t'aime à quelqu'un, on n'est pas capable de le quitter et on l'aime vraiment. Et c'est un amour qui est plus transmis par Christophe, qui est niais en quelque sorte et qui l'aime pas dès le premier regard, mais qui tombe amoureux d'elle très vite et qui reste amoureux d'elle et qui ne l'oublie pas en quelque sorte. Il tombe amoureux d'une personne qui pour lui c'est la seule et l'unique qui restera. Et quand il voit Ondine disparaître, on voit qu'il en est pas vraiment guéri, parce que pendant, même après, il va la chercher, il rêve d'elle, il la voit, mais il se reconstruit quand même une vie, parce que oui, il a un côté aimé sans vraiment penser, enfin sans cette pensée de je retrouverai quelqu'un, je pourrai facilement rencontrer une autre personne.
Et c'est vrai que du coup, Joanne, enfin, je pense qu'il a vraiment des sentiments, mais c'est simplement que une fois qu'il n'en a plus, quel intérêt de continuer même à discuter avec la personne.
Mais
c'est très rapide en fait.
Oui, c'est passage, vraiment deux façons d'aimer différentes.
Oui. Même on pourrait se dire, mais pourtant, enfin, on dit aussi. Quand même passe très rapidement, il n'y a pas de moment où il y a vraiment de rencontre, enfin il y a le moment de la rencontre, mais il n'y a pas le moment de la transition. Et on pourrait se dire, du coup, Ondine est pareil, mais pourtant, par exemple, le moment où ils se croisent dans la rue, on voit bien que Joanne et sa nouvelle copine, du coup, parce qu'on avait déjà une nouvelle, ne se tiennent, enfin, je sais plus s'ils se tiennent la main, mais elles ne paraissent vraiment pas très proches. On sent bien que leur amour est quand même beaucoup plus superficiel que celui entre Christophe et Ondine. Qui, même lorsqu'il marche, s'enlace, en fait.
Et c'est à ce moment-là où on l'a entendu dire « je t'aime » pour la première fois à Christophe. Et du coup, je pense que c'est aussi en rapport avec les différentes façons d'aimer. Donc une beaucoup plus rapide, beaucoup plus expéditif.
Oui, en quelque sorte. Mais...
Et l'autre où c'est vraiment... Enfin, c'est où c'est un amour plus profond et moins superficiel, du coup, comme tu le disais.
Pour Christophe, comme pour Ondine, aimer une personne, c'est un sentiment... Enfin, on ne peut pas arrêter.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'était pas le bon mot, mais c'était pas une question de longueur, ce que je disais.
On peut peut-être parler de la remarque de Christian Petzold, qui nous dit donc sur les applications de rencontre qui poussent à penser à quelqu'un de mieux, de systématiquement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, se dire peut-être qu'il y a mieux, et donc de ne jamais profiter de l'instant présent, de la personne avec qui on est, mais d'être tout le temps dans la peur de manquer quelque chose de mieux, l'idéal, le parfait qui en fait n'existe pas, on le sait. On peut peut-être s'interroger sur des questions auxquelles on n'a pas de réponse, hein, mais que Christian Petzold va peut-être au moins éclairer dans son interview, on ne sait pas. Une créature extrêmement intéressante, récurrente, et elle aussi mystérieuse, c'est le silure. Cette créature, pour vous, que représente-t-elle ?
C'est très très compliqué comme question. Je ne suis pas sûre de vraiment avoir de réponse, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Il m'a vraiment laissé en plan. Le fait que ça soit une créature assez... Bon, mythologique, non, car un silure dans un lac, ça semble à peu près normal, mais sa taille énorme, il lui fait peur. Non, il lui fait pas peur. On le voit dans ses yeux.
Il est émerveillé.
Oui, c'est ça. Et le fait que Ondine prend sa place, en quelque sorte, dans le lac.
Ouais.
Car après l'arrivée d'Ondine, on ne le verra plus. Enfin, si. On le voit à une reprise non. Quand il la sauve. Mais après cette scène, on se rend compte que quand Ondine va dans le lac pour mettre fin à ses jours ou pour rejoindre son royaume, selon l'interprétation, on ne le reverra plus comme si elle avait pris sa place.
Et pour moi, c'est plutôt une sorte de guide, peut-être aussi de nous, les spectateurs, plutôt une sorte d'introduction, en fait, vers, au final, aussi un peu le monde fantastique qu'on voit à ce moment-là, pas encore totalement. Puisque, alors, peut-être que c'est une taille presque normale, mais les gens sont quand même impressionnés. Et on voit quand même qu'il est mythique pour les gens qui connaissent bien le lac, parce que, je ne me rappelle plus de son nom, mais ils lui ont quand même donné un nom. Exactement.
Gunther, ouais.
Donc on voit qu'il est quand même important, que c'est quand même un symbole du lac même. Peut-être que c'est même un symbole des marais, finalement, en fait, du royaume. Et du coup, peut-être que c'est une introduction du royaume.
Je pense que pour moi, le silure n'a vraiment... Enfin, on n'a pas beaucoup parlé des fantômes, alors que ça a une place assez importante dans les films de Christian Petzold. Mais je n'ai vraiment pas vu le silure comme un fantôme, car comme le disait Marion, il a une importance pour les personnes, parce qu'ils lui ont donné un nom, ils le connaissent,
Oui, mais personne ne l'a jamais vu.
Oui, mais c'est plus un côté mythique, parce que les je vais les appeler les fantômes de Christian Petzold ou de Madame Veil, on ne sait pas trop. Sont plutôt comme Ondine qui est dans la société, mais que personne ne connaît. Quand Christophe veut la chercher, il pose la question à tant de gens s'ils la connaissent, et on remarque qu'elle n'a pas laissé d'empreinte. Voilà, c'est ce côté empreinte à la société de est-ce qu'on laisse quelque chose si on meurt, qu'est-ce qu'on se souviendra de nous.
Ondine a évidemment un côté très fantomatique, puisque du coup, effectivement, elle ne laisse pas de place dans la société, et aussi parce que on parle de fantôme, donc encore une fois, c'est dans beaucoup de cultures une personne qui a en quelque sorte mal, qui est mal morte. Et elle revient nous hanter, en fait, justement, peut-être aussi parce qu'elle a été oubliée, parce que les gens ne gardent pas sa mémoire. Parce que pour moi, la question de la mémoire est reliée aux fantômes.
Oui.
Et effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que les ondins ne vivent en quelque sorte que grâce aux humains, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle réapparaît que lorsque quelqu'un, en fait, démet, lorsque Christophe vient la voir, afin qu'on garde le souvenir, en fait, d'elle, et que c'est peut-être pour ça que c'est aussi un fantôme. Et elle revient nous hanter, en fait, justement, peut-être aussi parce qu'elle a été oubliée, parce que les gens ne gardent pas sa mémoire. Parce que pour moi, la question de la mémoire est reliée aux fantômes.
Oui.
Et effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que les ondins ne vivent en quelque sorte que grâce aux humains, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle réapparaît que lorsque quelqu'un, en fait, démet, lorsque Christophe vient la voir, afin qu'on garde le souvenir, en fait, d'elle, et que c'est peut-être pour ça que c'est aussi un fantôme. Non, on peut aussi parler de fantôme parce que, du coup, il faut quand même en parler de la ville de Berlin. On parle aussi, c'est du coup que lorsqu'on est dans le musée, dans le monde, en fait, de la RDA aussi, de la reconstruction de nouveaux bâtiments. Du coup, en fait, il y a aussi la question du souvenir des fantômes, du coup, de la division de Berlin, etc., etc.
Oui, des fantômes et de l'oubli, en quelque sorte, du passé. Il tient vraiment à un message qu'il a montré dans Phoenix, notamment, d'assumer l'histoire et de pas oublier les choses terribles qu'on a fait dans le passé, et de montrer On voit ça notamment avec le musée, enfin le château, pardon, qu'elle expliquait que dans le château, on a fait des choses horribles et pour oublier ça, on l'a rasé et on l'a reconstruit un peu plus loin comme pour dire on n'a jamais rien fait. Et je pense qu'il y a, un côté... il y a un fort message porté sur le non-oubli.
La mémoire.
La mémoire.
Ouais.
Ça sonne beaucoup mieux.
Très bien. Pour clore ce débat, nous reviendrons peut-être après l'interview de Christiane Petzold, peut-être plus éclairée sur son film, sur ses films, qui nous laissent plein d'émotions, avec des questions pas forcément répondues, mais une réflexion et des interrogations très intéressantes qui nous font réfléchir donc sur, sur la vie. Hein. Merci beaucoup Marion, merci Alice, merci Charlie. Nous nous retrouverons peut-être dans de nouveaux épisodes.
Merci.
Merci.
Merci.